L'Église et la morale, voici une conférence de l'abbé Louis-Marie Rinaud, prêtre de la fraternité Saint-Thomas Becket. Cette conférence a été enregistrée le 5 avril 2019 à Salise de Béarn, lors d'une soirée proposée par la paroisse Saint-Théodore de l'Alliance Salise de Béarn dans le cadre du carême. L'Église et la morale, l'abbé Louis-Marie Rinaud.
Alors bonsoir à tous d'abord. Donc oui, l'abbé Rinaud, j'ai 40... Attendez, 75, ça fait donc 40, 43 parce que c'est septembre. Donc, et donc j'ai été ordonné prêtre dans le cadre de ma communauté en l'an 2000. Et j'ai d'abord exercé mon ministère surtout dans le diocèse de Namur, parce qu'on avait une fondation là-bas, donc j'ai été envoyé là-bas. Et puis en 2013, notre supérieur m'a dit, tiens, tu passerais bien dans le diocèse de Bayonne. Je suis passé de Belgique à Bayonne. Il y a beaucoup de points communs, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors la communauté Saint-Thomas-Becket, à laquelle j'appartiens, Saint-Thomas-Becket, c'est un grand... Est-ce que vous connaissez Saint-Thomas-More? Oui, un petit peu. Alors, si vous connaissez Saint-Thomas-More, c'est très curieux. Saint-Thomas-Becket, c'est une histoire tout à fait semblable, 3 siècles avant. C'est une histoire quasi, je ne vais pas dire identique, mais il y a beaucoup de points communs. Saint Thomas Becket était un évêque anglais du XIIe siècle, archevêque de Canterbury, et en fait, c'était avant de devenir archevêque, il était un grand ami du roi d'Angleterre de l'époque, qui s'appelait Henri II. Et Henri II l'a fait nommer archevêque de Canterbury parce qu'il espérait, par ce biais-là, en mettant un homme à lui à la tête de l'archevêché de Canterbury, et donc à la tête de l'Église d'Angleterre, il espérait pouvoir se mettre l'Église d'Angleterre, et surtout ses revenus, à vrai dire, dans sa poche. Mais c'est que Thomas Becket, étant nommé archevêque, a pris son rôle très au sérieux et a dit, ben non, enfin, chacun son rôle. Vous êtes le roi, votre rôle, c'est de gouverner le royaume. L'Église, elle doit avoir son indépendance. Et de fil en aiguille, le roi, qui avait un tempérament très violent, ne l'a pas entendu de cette oreille, donc ils sont rentrés très vite en conflit. Thomas Becket a dû s'exiler en France, entre autres. Et puis finalement, il s'est dit, ben, je ne peux pas rester loin de mon peuple. Il savait très bien que s'il revenait à Canterbury, ben, il risquait sa vie. Et il s'est dit, mais je ne peux pas. Voilà. Un évêque, c'est pas fait pour... Son départ était légitime, mais il est revenu. Et à peine quelques mois après son retour, il a été littéralement massacré dans sa cathédrale par quelques hommes du roi. Donc vous imaginez le scandale que ça a pu faire à l'époque, hein, dans toute la chrétienté, un évêque massacré, un archevêque massacré dans sa propre cathédrale. Et donc, voilà, c'est une belle figure. Alors, il a été canonisé très rapidement. On le fête le 29 décembre, donc il passe complètement inaperçu, puisque c'est les jours qui suivent Noël. Et c'est un bel exemple de pasteur qui donne sa vie pour son troupeau. Voilà, donc je pense que pour une communauté de prêtres comme la nôtre, c'est un bel exemple. Alors, notre communauté, c'est une communauté, comme je le disais, de prêtres, fondée il y a une vingtaine d'années, un peu plus maintenant, par un curé même, du diocèse de Blois, donc dans le Loir-et-Cher, qui avait beaucoup de... Je dis qu'il y avait, maintenant il a un petit peu levé le pied, parce que ça fait quelques années maintenant, qui avait beaucoup d'activités dans le monde de la jeunesse. Et donc il y en a un certain nombre de jeunes comme ça qui ont senti l'appel à devenir prêtre, mais qui ont souhaité exercer leur ministère un petit peu en exploitant ses intuitions, son charisme, etc. Et donc, de fil en aiguille, ça a donné une communauté. Ça se fait de manière un petit peu informelle au début. Vous voyez les étapes dans l'Église quand on veut devenir une communauté. Et voilà. Et de fil en aiguille, on a été reconnus en 93, Pentecôte 93. Et voilà. On est une quinzaine et on est par petits groupes de trois. Un groupe de trois, enfin trois ou plus, ou moins. Mais normalement, c'est trois, le modèle de base. Et on est trois à Bayonne. Voilà. Et donc, on s'occupe pas mal de jeunes et de familles, multiples points de vue, sauf quelques malheureux qui sont... quelques malheureux. Moi, en l'occurrence, j'ai été notamment nommé professeur au séminaire où j'enseigne, figurez-vous, la morale. Voilà, la théologie morale. Bon, sinon, si j'avais enseigné le foot, vous auriez eu une conférence, le foot et l'Église, hein, mais comme c'était la morale, on s'est dit, on va faire la morale et l'Église. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été suffisamment évocateur dans ce que je vous ai dit de notre communauté, de notre parcours. Voilà. Victor, des questions, des remarques, des réflexions, des objections. Alors donc vous avez choisi comme thème l'Église et la morale. De quoi l'Église se mêle-t-elle quand elle parle de morale? Alors, quand Victor m'a demandé de faire cette intervention ce soir, j'ai essayé de l'avoir au téléphone, mais j'ai pas réussi, sauf ce matin. Donc, j'ai dit, l'Église et la morale, qu'est-ce que vous voulez exactement? On m'a dit, grosso modo, ton article. Mais mon article, il fait 2 pages, donc je peux vous lire les 2 pages, mais ça ferait peut-être pas 3 quarts d'heure. Donc, moi, j'ai pensé à 3 questions. D'abord, comme dit tout à l'heure, pourquoi l'Église se mêle-t-elle de morale? Deuxième question, comment l'Église parle-t-elle de morale? Et troisième question, que dit-elle en matière de morale? Alors, que dit-elle en matière de morale? C'est l'objet d'un cours qui s'étale sur 7 ans, c'est juste 2, 3 petites choses hein, que je vais vous dire, mais c'est surtout les 2 premières questions qui vont m'intéresser ce soir. Je vous propose si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans un coin de votre mémoire, et pour me les poser, même sur la communauté d'ailleurs, ou quoi, ou sur moi, enfin, qu'est-ce que vous voulez, pour qu'on les on voit ça à la fin. Alors, pourquoi l'Église d'abord se mêle-t-elle de morale? Bien, j'ai envie de répondre dans un premier temps, d'abord, parce que Jésus et ses apôtres, eux-mêmes, se mêlent de morale. Si vous ouvrez votre évangile, vous trouverez, je vais prendre 2 passages importants, le fameux passage où le jeune homme riche vient trouver Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Un dialogue que vous connaissez bien. C'est un dialogue qui a été choisi par saint Jean-Paul II quand il a fait justement la seule encyclique de morale fondamentale qui existe, qui s'appelle Veritatis Splendor, qui date de 93. Et le fil conducteur de ce document, c'est justement ce dialogue entre Jésus et le jeune homme riche. Bon maître, tous les mots portent, hein, tous les mots portent dans ce dialogue, mais je ne vais pas tous les évoquer. Mais bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Au fond, c'est la question morale, ça, j'y reviendrai tout à l'heure, hein. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie? Et Jésus lui répond, tu connais les commandements. Et donc Jésus reprend à ce moment-là les commandements. Il ne les reprend pas tous hein, dans ce récit, mais il reprend les commandements. Les commandements, c'est de la morale. Hein, tu ne tueras pas, tu ne commettras. Je ne me souviens plus exactement lesquels Jésus évoque. Il n'évoque pas les 3 premiers, mais il évoque tu ne tueras pas, etc. Tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse, dit le jeune homme. Vous avez un deuxième passage où Jésus parle de morale. C'est dans ce qui est, ce qu'on peut dire, la charte de la vie chrétienne. Donc notre manière à nous, chrétiens, d'envisager la morale, ça se trouve dans le discours sur la montagne. C'est dans Saint Matthieu, chapitre 5 à 7. Jésus gravit la montagne, il s'assit. Et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. C'est un passage de l'évangile qui est très solennel. On voit très bien que Jésus est présenté comme étant le nouveau Moïse. Alors, vous savez que Moïse, c'est celui par qui viennent les 10 commandements. Or là, vous avez Jésus qui est un petit peu en posture de Moïse, hein, sur une montagne, comme Moïse, qui ouvre la bouche et qui se met à les instruire. Et quand il se met à les instruire, de quoi parle-t-il en tout premier lieu? Les 8 ou 9, hein. Béatitude, que vous connaissez, hein. Heureux les pauvres de cœur, etc. Mais si vous. Et c'est déjà de la morale, j'y reviendrai tout à l'heure, hein. C'est déjà de la morale. Puis Jésus poursuit, et vous avez un petit peu plus loin, Jésus qui a un très beau passage, hein, très étonnant, hein, où Jésus dit, vous avez entendu dire, tu ne tueras pas. Donc ça rappelle l'Ancien Testament, etc. Eh bien moi je vous dis de ne pas même vous mettre en colère contre votre frère. Vous voyez, vous vous souvenez ce passage-là, hein? Vous avez entendu dire, tu ne commettras pas d'adultère ou tu ne commettras pas de jugement. Eh bien moi, je vous dis, etc. Donc Jésus reprend les commandements que connaissaient déjà les Juifs, hein, les 10 commandements. Il ne les reprend pas les 10, hein, il en prend quelques-uns. Il les revalide, si je puis dire, mais en même temps, il va plus loin. Parce qu'il dit, on vous a dit, tu ne tueras pas. Très bien. Tu ne te mettras même pas en colère contre ton frère. C'est de la morale, voyez, sur la bouche de Jésus. Ça, c'est dans l'Évangile. Vous avez aussi bien les apôtres. On pourrait faire une liste des passages, hein, par exemple chez Saint Paul, hein, où Saint Paul, intervient. Par exemple, dans la première aux Corinthiens, on se demande, les exégètes se demandent si ce n'est pas parce que les Corinthiens lui avaient soumis une liste de questions, disant voilà, qu'est-ce qu'on doit faire? Et saint Paul, c'est pour ça que c'est des passages qui peuvent parfois un petit peu difficiles à commenter, parce qu'on a l'impression qu'il passe du coq à l'âne. Et saint Paul répond à une série de questions qui lui ont été posées par les Corinthiens, par exemple sur le mariage. Le mariage, c'est bien ou c'est pas bien, finalement? Parce qu'il y avait tellement de choses qui circulaient dans le monde d'alors que finalement, parfois les chrétiens se sentaient un petit peu perdus. Est-ce qu'on peut se marier ou pas? Alors, saint Paul dit, oui, pas de problème, je vous rassure tout de suite. Donc les apôtres. Parfois, c'est pour dire d'ailleurs, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein, ça arrive. Saint Paul, il est interrogé sur un point précis, il dit, bah, écoutez, là, chacun fait ce qu'il veut. Faites juste attention à celui qui est à côté, à ne pas le choquer, mais sinon, chacun fait ce qu'il veut. Éventuellement, j'y reviendrai tout à l'heure. Ou parfois pour dire, pour trancher de manière ferme, hein, la question. Et on trouve ça chez les premiers chrétiens. Hein. Je vous ai apporté un extrait d'un des plus anciens écrits chrétiens. Vous voyez, ça, c'est les Pères apostoliques. Donc, c'est les tout premiers écrits qu'on a des chrétiens. Et on a un passage célèbre dans une épître qui s'appelle une lettre, qui s'appelle l'épître à Diognète. La lettre à Diognète. Il y a un très beau passage. Je vais vous le lire. Les chrétiens ne se... Alors, c'est quelqu'un qui écrit pour expliquer qui sont les chrétiens, à une époque où les chrétiens ils sont très 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 peu nombreux. Hein. Les chrétiens ne se distinguent des autres hommes ni par le pays, ni par le langage, ni par les vêtements. Ils sont habillés comme tout le monde, dit-il. Ils n'habitent pas de ville qui leur soit propre. Ils ne se servent pas de quelque dialecte extraordinaire, leur genre de vie n'a rien de singulier. Ils résident chacun dans leur propre patrie, mais comme des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens et supportent toutes les charges comme des étrangers, etc. Et il dit un moment, Diognète, voilà, ils se marient comme tout le monde. Ils ont des enfants, mais ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Ils n'abandonnent pas leur nouveau-né. Pourquoi? Parce que c'était courant dans les mœurs de l'époque, dans le monde gréco-romain de l'époque, ce qu'on appelait pudiquement exposer les nouveau-nés. C'est-à-dire, s'il y avait une naissance et que le bébé ne convenait pas, eh bien, on le laissait quelque part. Et après, on ne s'en occupait plus. C'était très courant dans les mœurs à l'époque. Et lui, Diognète, témoigne de ce que les premiers chrétiens, nourris par l'enseignement des apôtres, nourris par la doctrine de Jésus, spontanément ont adopté une autre manière de faire, en disant « nous, on peut pas faire comme ça ». Donc un des traits distinctifs des premiers chrétiens, c'est cette morale vécue, là c'est de la morale vécue, vous voyez, de se dire « on ne peut pas faire ça ». Et c'est un de leurs traits distinctifs, ce n'est pas leur genre d'habillement, ce n'est pas la langue qu'ils parlent. Là, ils sont comme tout le monde, ils payent leurs impôts comme tout le monde, etc. Mais ça, ils ne le font pas. Donc, pourquoi l'Église se mêle-t-elle de morale? D'abord et avant toute chose, parce que Jésus et les apôtres le font. Mais la question rebondit, parce qu'on peut se dire, mais pourquoi diable les apôtres ou Jésus se mêlent-ils de morale? Alors là, il faut savoir qu'il y a plusieurs types de morale. On peut distinguer les morales distinctes, hein, à de multiples points de vue. Et il y a notamment un grand débat entre les diverses morales. Quand je dis les diverses morales, c'est les morales des divers philosophes, les morales des diverses religions, etc. Un des points sur lesquels on discute, c'est de savoir s'il y a un rapport entre la morale, d'une part, et le bonheur, d'autre part. Vous avez des morales qui disent la question du bonheur, elle est peut-être importante, mais ça n'a rien à voir avec la morale. Et vous avez des morales qui disent, pardon, non seulement le bonheur en morale, c'est important, mais même le rôle de la morale, c'est de nous conduire vers le bonheur. La morale est un chemin vers le bonheur. Eh bien, c'est très, très frappant. Dans la Bible, sur l'élève de Jésus, et dans la théologie morale de l'Église, dans l'enseignement de l'Église depuis les origines, hein, très nettement, on a toujours, dans notre tradition religieuse à nous, on a toujours mis en relation très forte le bonheur d'une part et la morale d'autre part. Nous avons fait un choix. L'enseignement de l'Église sur la morale, c'est de dire qu'il y a un lien entre les deux. Et l'Église le dit parce que d'abord Jésus le dit. Et avant que ce soit Jésus, d'abord c'est l'Ancien Testament. Vous avez jamais été frappé par ces paroles dans l'Ancien Testament? Heureux l'homme qui. Heureux l'homme qui. Par exemple, si vous lisez les psaumes de temps en temps, le premier psaume, le premier verset du premier psaume, c'est « Heureux l'homme qui ne s'assoit pas au conseil des méchants, ne ricane pas avec ceux, etc. » Ça vous dit quelque chose, cette manière de s'exprimer? C'est très fréquent dans la Bible. Quand la Bible donne une consigne morale, un impératif, quand on creuse, on voit toujours qu'il y a la notion de bonheur derrière. Et Jésus, c'est encore pire, j'allais dire. Plutôt, c'est encore mieux. Quand Jésus prononce le sermon sur la montagne, qui est la charte de la vie chrétienne, qui est un petit peu voilà, notre constitution à nous, si je puis dire, par quoi commence-t-il Jésus? Il ne commence pas par dire « il faut faire ci, il faut faire ça ». Il commence par dire « heureux, heureux, les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux, heureux, heureux. » Et il y a une litanie comme ça qui commence à chaque fois par « heureux, 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 heureux ». Et c'est après qu'il va développer. Et ça va donner le sermon sur la montagne. Vous voyez, dans l'enseignement de Jésus, il y a un lien profond entre les règles qu'il donne, les maximes de vie qu'il donne, et le bonheur sur lequel il est venu, dont il est venu nous parler. On peut dire que la morale de la Bible, c'est une morale du bonheur. Alors attention, évidemment, attention. En même temps, la Bible nous donne une révélation sur le bonheur. Parce que ça aussi, c'est une vieille question. La morale, c'est une vieille question. Depuis que l'homme est homme, on s'est toujours posé des questions de morale. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Mais on s'est toujours aussi posé la question du bonheur. C'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur? Aujourd'hui, c'est pareil. Prenez des tapés sur... tel site que je ne vous nommerai pas, qui vend des bouquins, vous tapez le mot bonheur, et vous regardez le nombre de bouquins qui vous expliquent comment être heureux, en 5 leçons, 15 leçons, 20 leçons, 25 leçons. Qu'est-ce que le bonheur? Mais la Bible, elle a une idée sur le bonheur, une idée précise sur le bonheur. Et la Bible nous dit, et Jésus, c'est la même chose. Et Jésus nous enseigne, si vous lisez bien l'Évangile, si on lit bien la Bible, que nous enseigne la parole de Dieu? Au fond du fond, le bonheur, c'est Dieu lui-même. Au fond du fond, le bonheur, c'est d'être en relation profonde avec Dieu. Tant qu'on n'a pas trouvé Dieu, il manque quelque chose d'essentiel au bonheur de l'homme. Ça, c'est une révélation capitale. La vie éternelle, par exemple, dit Jésus, la vie éternelle, c'est la plénitude de la vie. La vie éternelle, c'est pas seulement la vie dans l'au-delà, c'est la plénitude de la vie. Donc, le bonheur aussi. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est l'expérience des chrétiens, c'est l'expérience des saints aussi. C'est l'expérience de l'Église tout entière. Donc, la morale va de pair avec le bonheur. Et quand la parole de Dieu parle de morale, la parole de Dieu parle aussi en même temps de bonheur. Voilà pourquoi l'Église nous parle de morale. Parce que l'Église nous parle de bonheur aussi. Et si l'Église nous parle de morale et de bonheur, c'est parce que le premier Jésus nous a parlé de morale et de bonheur. Voilà. On retrouve ça très bien dans le Concile Vatican II. Dans le Concile Vatican II, il y a deux documents importants qui parlent de morale. Il y a un petit passage dans un document qui porte sur la formation des prêtres. Bon, ça, je vais le laisser de côté. Et il y a surtout un grand, grand, grand document qui s'appelle Gaudium et Spes. Je pense que ça fait écho à vos oreilles. Hein. Gaudium et Spes, la joie et l'espérance des hommes. Un des derniers documents promulgués par le Concile. Et c'est très intéressant parce que au début, dans l'histoire du Concile, on avait prévu de faire un document sur la morale, mais qui était très marqué par l'idée simplement permis, défendu, il y a le droit, il n'y a pas le droit. Bien. Ça, c'est un petit peu une morale rigiki. Et puis au fur et à mesure que le Concile s'est développé, on a repris tout ça, on a remanié tout ça, etc. Et ça a donné quoi? Ça a donné Gaudium et Spes. Et qu'est-ce que vous voyez dans Gaudium et Spes? Eh bien, c'est un document qui est traversé Une des idées qui traverse tout le document, c'est la vocation de l'homme au bonheur. La vocation de l'homme au bonheur. L'homme est fait pour le bonheur comme le poisson est fait pour vivre dans l'eau. Et le bonheur, dit le Concile, si vous lisez un petit peu de près, hein, vous notez les mots, les phrases clés, et voyez que le Concile nous achemine, rappelle cette idée fondamentale de dire finalement, hein, le cœur du bonheur, c'est d'être en communion avec Dieu, en communion profonde avec Dieu. Et c'est seulement sur cette base-là que le Concile, dans ce document-là, va parler de morale, vous voyez ? C'est un des grands enseignements du Concile, hein, de retrouver cet ancrage de la morale dans le bonheur. Donc l'Église ne peut pas se désintéresser de la morale, parce que comme Jésus, l'Église n'a pas le droit, ne peut pas se désintéresser du bonheur de l'homme. Mais ça suppose, bien sûr, ce que je vous dis là, ça suppose d'avoir réalisé que la morale, c'est le chemin vers le bonheur. Mais le bonheur authentique. Le bonheur authentique. Et le bonheur authentique, il peut être surprenant. Hein. Le bonheur authentique, il est surprenant. Parce que nous sommes des gens surprenants. Comme dit il y a une belle parole de la Bible, Dieu qui dit « Le cœur de l'homme est compliqué et malade. Qui peut le connaître ?» Moi, Dieu. Le Seigneur nous connaît bien. Le Seigneur nous connaît bien. Et il sait bien qu'on n'est pas fait pour un bonheur à rater. Il sait bien de quoi nous avons besoin. Et il sait bien qu'au fond de ce dont nous avons besoin, c'est nous. Relisez les béatitudes. Ce dont nous avons besoin, c'est Dieu. Relisez les béatitudes. Elles sont paradoxales. Bienheureux ceux qui pleurent, par exemple. Moi, je n'aurais pas dit comme ça d'emblée, bienheureux ceux qui pleurent. J'aurais dit autre chose, si j'avais été Jésus. Mais voilà, mais je ne suis pas Jésus, je ne connais pas très bien le cœur de l'homme. Bienheureux les pauvres. Bah, enfin, ça ne va pas, c'est bienheureux les riches, bien sûr. Et ils se trompent, là. Oui, si on est à ras de terre, bienheureux les riches. Heureux les peuples qui débordent d'iPhone dans leur poche. On déborde d'iPhone, donc on est forcément le plus heureux de tous les peuples. J'ai pas l'impression, en ouvrant ma radio le matin, d'ailleurs je l'ouvre pas le matin, comme ça c'est la meilleure manière de pas être trop déprimé pendant la journée, mais j'ai pas l'impression, en lisant les nouvelles, j'ai pas l'impression que le bonheur règne. Pourtant, les iPhones, tous les ans, on change, hein, parce que l'ancien, il est quand même un peu... Donc on devrait être super, on devrait être champion du bonheur. Je pense pas, enfin j'ai pas l'impression. En tout cas, les gens se plaignent beaucoup, je trouve. Bien. Donc, c'est pas si bête. C'est paradoxal ce que dit Jésus, mais c'est pas si bête. Bon, je suis pas là pour vous dire, c'est pas l'objet de notre. Mais vous voyez, je voulais simplement vous sensibiliser sur le fait que le bonheur, c'est un lien avec le moral, et le bonheur, c'est pas si simple. C'est pour ça que la morale est parfois surprenante, parce que le bonheur est parfois surprenant. Voilà. Ça, c'était mon premier point. Pourquoi l'Église se mêle-t-elle de morale ? Réponse : parce que l'Église, comme le Seigneur, est passionnée par le bonheur de l'homme. Et que le bonheur de l'homme, le chemin vers le bonheur de l'homme, c'est rien d'autre que la morale. Alors, la deuxième question que je voulais traiter avec vous ce soir, c'est comment l'Église parle-t-elle de morale ? D'abord, pourquoi l'Église se mêle-t-elle de morale ? Et deuxièmement, comment l'Église parle-t-elle de morale ? L'Église parle de la morale tout entière. Tout entière. L'Église, c'est bien sûr les prêtres, les curés, tout ce qu'on veut, les évêques, le pape, etc. Mais l'Église, c'est quand même aussi beaucoup de baptisés, de fidèles baptisés, hein, comme nous disons dans notre vocabulaire. Donc vous. Eh bien, c'est toute l'Église qui transmet la morale du Seigneur, cette morale du bonheur, cet art de vivre heureux qui nous a été laissé par le Seigneur. Quand des enfants transmettent la foi à leurs enfants et transmettent aussi les règles de vie qui vont, la loi du Seigneur qui va avec le... Ils transmettent la loi du Christ. Quand un catéchiste ou une catéchiste explique... Alors je l'ai fait ce matin avec un groupe de jeunes, hein, j'aurais parlé du pardon. Enfin, un groupe de jeunes. Il y avait tout un... Et toutes les quatrièmes de l'établissement et toutes les troisièmes aussi. J'aurais fait un petit mot, c'était les célébrations de Pâques, un petit peu en avance. Hein, bon. J'aurais fait un petit mot sur le pardon, puisque le thème des célébrations auxquelles ils participaient, c'était le pardon. Ce que je dis, j'ai dit ce que peut dire n'importe quel catéchiste sur le pardon. en leur disant que le pardon, c'est important pour être heureux, hein. Parce que si on pardonne pas, ça nous pourrit le cœur. Vous voyez, le pardon, c'est typique, c'est exigeant le pardon. Et en même temps, c'est obligatoire. Comment voulez-vous être heureux comment voulez-vous qu'on soit heureux si on n'arrive pas à se délester quand on a quelque chose qui nous pèse parce qu'on n'a pas réussi à pardonner, oui. Or ça, c'est pas l'œuvre des prêtres seulement, d'abord, c'est l'œuvre des catéchistes, des parents, enfin de tous les fidèles baptisés. Donc c'est toute l'Église qui transmet la morale de Jésus, c'est toute l'Église qui parle de morale de vie, hein. Morale de vie, vous avez bien saisi mon insistance là-dessus. Alors c'est une transmission qui est vivante. Parce qu'il y a des problèmes nouveaux qui se posent à chaque génération. Jésus n'a pas tout dit. C'est curieux, hein ? Jésus n'a pas tout dit. Il n'a rien écrit. Curieux, hein ? Moi, je serais lui, j'aurais écrit pour être sûr. Constitution, grand A, grand B, grand C, comme ça, on est sûr que ça ne bouge pas. Jésus n'a rien écrit. La seule fois où on le voit écrire dans l'Évangile, il écrit sur du sable. Autant on emporte le vent, hein ? Jésus n'a rien écrit, il n'a pas laissé un bouquin, il a laissé ses apôtres, à qui il a promis son esprit, qui leur fera tout comprendre et tout se souvenir. Vous vous souvenez, c'est merveilleux, on va avoir bientôt ça au temps pascal, hein, on entendra ces promesses de Jésus, je vous enverrai mon esprit, vous vous souviendrez de tout ce que... etc. Donc il a laissé ses apôtres, et à ses apôtres il a envoyé son esprit. Et qu'est-ce qu'on voit dans les actes des apôtres ? Que quand ils se trouvent face à une difficulté, où ils se posent la question, mais qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien ? Eh bien, c'est les apôtres qui réfléchissent, qui prient et qui tranchent. Alors, un grand problème, par exemple, qu'on voit dans les actes des apôtres, c'est la circoncision. Bon, nous avons tous été baptisés dans cette pièce, je pense. Bon, je pense qu'à notre baptême, on ne nous a pas obligés à subir la circoncision. Alors d'abord, évidemment, parce qu'il y a des femmes parmi nous, mais nous aussi, les hommes, on n'a pas été concernés. Eh bien ça, eh ben on l'a eu chaud, hein. Parce qu'il y a 20 siècles, ce n'était pas évident. Tous les apôtres de Jésus, tous les premiers chrétiens, ce sont des juifs. Ils ont tous été circoncisés. Circoncis. Circoncis. Et c'est que le papa, il était circoncis. Le grand-père, il était circoncis. L'arrière-grand-père était circoncis. On est circoncis chez nous depuis 50 générations. Mais maintenant que Jésus est ressuscité, qu'il nous a donné le baptême, est-ce que ça a encore un sens, la circoncision ? Grosse question des premiers chrétiens. Est-ce que c'est encore obligatoire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Réflexion, c'est les apôtres qui tranchent. Ils disent non. Circoncision, non, c'est... C'était utile tant qu'il n'y avait pas le baptême. Maintenant qu'il y a le baptême, plus besoin de circoncision. Enfin, si vous voulez circoncisez-vous. Circoncisez-vous, oui, bon. Mais, et tous les autres rites juifs, vous vous souvenez, les froids de Saint-Pierre, est-ce qu'on peut manger de toutes les viandes ? Même, vous mangez de tout, hein, comme chrétien, on mange de tout, hein. Bon, le vendredi, parfois, on mange du poisson, d'accord. Mais sinon, on peut manger de tout, hein. Mais c'est pas évident pour les premiers chrétiens. Est-ce qu'on peut, parce que les juifs, ils mangent pas de tout, hein. Et vous vous souvenez de cette vision qui descend devant Saint-Pierre, hein, il y a un drap qui tombe du ciel, avec dedans tout plein d'animaux, puis des porcs en particulier, des cochons. Hein. Et il y a une voix qui dit à Saint-Pierre, « Vas-y, tue et mange !» Et Saint-Pierre, « Jamais, Seigneur ! Jamais aucun aliment impur n'est entré dans ma bouche. » Vous vous rendez compte, ça fait, depuis qu'il est tout petit, jamais, 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 il a mangé un morceau de porc. Il n'a jamais mangé d'andouillette. Jamais de boudin basque, rien. Le pauvre. Mais vous imaginez le traumatisme, son père non plus. Enfin, ça fait des générations, des générations, des générations qu'on n'a jamais mangé d'eux. Et là, la voix lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, ne le déclare pas impur. Et donc, c'est fini. C'est plus... Maintenant, peu importe. On peut manger du porc ou pas. Si on veut pas, on fait ce qu'on veut. Vous voyez ? Le rôle des apôtres déterminant, et combien d'autres questions. Mais la circoncision, Jésus, c'est marqué nulle part dans l'Évangile, vous n'êtes pas obligé de vous faire circoncire, c'est marqué nulle part. La question s'est posée après Jésus. Et combien d'autres questions? Au fur et à mesure que l'Église avançait dans le temps, d'autres questions se sont posées. Et à chaque fois, c'est le même phénomène. Les chrétiens réfléchissent tous ensemble, et puis à un moment, chacun donne son avis, et parfois ça chauffe. Et puis au bout d'un certain moment, ce sont les successeurs des apôtres, hein, parce que les apôtres ne sont plus parmi nous, mais ils ont eu soin d'instituer des successeurs qui tranchent. Autre exemple, au 19e siècle, 19e siècle, révolution industrielle. Vous savez que l'effet de la révolution industrielle, ça a été de créer beaucoup de paupérisme. Et donc, dans cette nouvelle société qui naissait au 19e siècle, les chrétiens se sont beaucoup interrogés sur ce qu'il fallait faire pour venir en aide aux pauvres qui étaient de plus en plus nombreux, hein, c'est-à-dire en fait les ouvriers. Hein. L'industrie se développait à un rythme fou. Et ceux qui faisaient marcher l'industrie, c'était des ouvriers. Mais on ne connaissait pas avant des telles concentrations d'ouvriers. Tout le monde était agriculteur quasiment. Et puis ils n'étaient pas regroupés comme ça en centre, ils étaient disséminés dans les familles, on tissait chez soi, etc. Et là, on se retrouve avec des banlieues entières d'ouvriers, avec des salaires de misère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que l'Église peut dire quelque chose là-dessus? Est-ce que l'État a le droit d'intervenir ou pas? Est-ce que c'est une bonne chose que l'État... Alors les chrétiens ont beaucoup réfléchi là-dessus. Ils n'étaient pas tous d'accord. Certains disaient, oui, pour venir en aide aux gens qui sont pauvres, il faut se mobiliser, mais ce n'est pas à l'État d'intervenir, parce que c'est très dangereux que l'État intervienne, etc. D'autres disaient, si, si, l'État, il est là pour défendre les pauvres, donc c'est normal qu'il intervienne, qu'il fasse des lois pour limiter les cadences de travail trop importantes, pour que les salaires soient suffisants, etc. Mais qui avait raison? Alors en 1891, après que les chrétiens aient discuté, beaucoup de laïcs, hein, au début c'est des laïcs, des gens, des économistes, des professeurs d'université, etc. Et puis après des évêques se sont mis, les évêques ont emboîté le pas, se sont mis de la partie aussi. Hein. Puis au bout d'un certain moment, le pape, qui était Léon XIII à l'époque, a estimé que le débat était mûr et qu'il y avait moyen de trancher quand même certaines discussions. Il n'y a pas tout, hein. Et il a écrit une encyclique. Qui s'appelle Rerum Novarum, des choses nouvelles. Et dans cette encyclique, il intervient en tant que pape pour dire, voilà, la solution chrétienne du problème, c'est celle-là. L'État est tout à fait légitimé à intervenir, par exemple, parce qu'il doit avoir le soin des plus pauvres, normalement, etc. Mais à l'époque, il y a des gens qui ont dit, ah, qu'est-ce que c'est que ce pape socialiste qui se mêle de ce qu'il ne regarde pas l'Église dans les sacristies, le problème des ouvriers, c'est pas son problème. Or, ce sont des choses essentielles de la vie. Vous voyez? Mais évidemment, le problème des ouvriers du temps de Jésus, il n'existait pas. Il a fallu attendre 19 siècles pour qu'il se pose. Vous voyez? Et voyez comment la réflexion se fait dans l'Église sur les problèmes de morale, parce que c'était un problème de morale, hein. Qu'est-ce que je dois faire moi comme patron chrétien pour bien me conduire vis-à-vis de mes ouvriers? Qu'est-ce que je dois faire moi qui suis chef d'État ou qui suis député? Pour bien accomplir mon devoir de député en chrétien, comment je dois me conduire pour bien me conduire? C'est une question de morale, ça. Hein. Mais vous voyez comment la réflexion se fait dans l'Église tout entière, et puis à un moment, il y a les évêques, et puis finalement le pape, qui vient trancher. Alors je disais dans mon article que nous avons la chance d'avoir un résumé, parce que si vous voulez étudier tout ce que disent les évêques du monde entier, pour vous faire une idée sur un problème de morale, ou simplement si vous voulez lire tout ce que les papes ont écrit en disant, bon, je ne vais pas lire tous les évêques, je vais lire juste les papes. Et vous allez vous amuser quand même. Hein. Donc, on a un résumé. On me dira, le résumé est un peu gros. Le catéchisme de l'Église catholique, c'est un bon point de repère. Tout n'est pas dedans, hein, on est d'accord. Mais il y a de bons points de repère. Et puis il y a un index qui est bien fait. Hein. Si vous avez une question, vous demandez, tiens, qu'est-ce que pense l'Église de tel sujet? Alors peut-être que vous ne le trouverez pas. Par exemple, baby-foot, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Mais d'autres choses, vous trouverez. Et c'est pas, la morale ne fait pas tout le catéchisme de l'Église catholique, hein, c'est seulement une partie. Et ça, c'est important que ce soit qu'une partie, j'y reviendrai tout à l'heure. Voilà. Comment l'Église parle de telle de morale? L'Église parle de morale à travers tous ses enfants. Elle parle de morale aussi grâce aux évêques, aux successeurs des apôtres, et à la tête des évêques, bien sûr, successeur de Pierre qui était lui-même à la tête des apôtres, qui est le Saint-Père, qui est le pape. Troisième point, troisième et dernier point, puisque je vois que l'heure tourne. Que nous dit l'Église en matière de morale? Donc là, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en avait pour 7 ans, et encore, hein, parce qu'il y a des gens qui passent toute leur vie, sur certains secteurs particuliers de la morale. Donc je vais juste vous dire 2-3 choses qui me paraissent importantes, même aussi pour nous, pour notre vie, mais aussi pour les discussions avec les gens, mais aussi pour notre vie. Deux choses surtout qui me paraissent importantes. La première chose qui me paraît importante, bien que je sois professeur de... Enfin, professeur, disons que j'enseigne, je donne des cours de morale, plus exactement. Eh bien, je dois reconnaître que ce n'est pas moi qui ai la matière la plus importante au séminaire. La morale, ce n'est pas le plus important. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, c'est le chemin vers le bonheur. Quand même, c'est important. Mais, le chemin vers le bonheur, il est toujours basé sur une certaine vision de l'homme, du monde et de Dieu. Toute morale est toujours basée sur une certaine vision de l'homme, du monde et de Dieu. Si j'ai une certaine vision de l'homme, forcément il y a une certaine morale qui va s'en suivre. Si je dis l'homme n'est qu'un automate gouverné par ses instincts, forcément il y a une certaine morale qui va en suivre. Si je dis l'homme est un pur esprit qui aime tout. Il y a un petit peu un lien avec un corps, mais tout un lien de rien du tout. Et au fond, le corps, c'est pas important du tout, et tout le monde s'en fiche. Une certaine morale va s'en suivre, etc., etc. Si je crois que Dieu existe, je vais pas forcément avoir la même morale que si je pense que Dieu existe. D'accord? Donc, derrière une morale, il y a toujours une certaine vision de Dieu, une certaine vision du monde, et une certaine vision de l'homme. Et c'est pourquoi, dans la Bible, si vous regardez bien les 10 commandements, avant que les 10 commandements soient promulgués par le Seigneur, eh bien vous avez un rappel de qui est Dieu. Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Égypte. Vous voyez? Ça, c'est important. Avant la morale, et ça, c'est ce que disent aussi les papes, hein, avant, le pape François, mais le pape Benoît l'avait dit avant, etc. Avant la morale, avant de proclamer la morale, il faut proclamer, si je puis dire, qui est Dieu et qui est l'homme? Quand nous parlons à des jeunes dans des établissements, on ne parle pas d'abord de morale. On parle d'abord qui est Dieu. Dieu existe. Il nous aime. Il a envoyé Jésus pour nous sauver, etc., etc. Vous voyez, ça, c'est le cadre. C'est le cadre. Et puis, même chose sur ce qui nous sommes. C'est important de comprendre qui est l'homme pour comprendre la morale. C'est d'ailleurs ce que fait Vatican II dans le document, la Gaudium et Spes, dont je vous ai parlé. Eh bien, le fil conducteur du document, et ça, c'est Gaudium et Spes le dit explicitement, c'est une certaine conception de l'homme. Une certaine conception de l'homme. Gaudium et Spes dit explicitement, le fil conducteur de notre exposé, ce sera l'homme composé d'âme et de corps. L'homme, l'être humain, hein, composé d'âme et de corps. Donc, vous voyez, la morale est seconde. La morale est seconde en ce sens qu'elle vient toujours à la suite et en dépendance d'une certaine vision de l'homme, d'une certaine vision du monde, d'une certaine vision de Dieu. Et quand on parle de la morale chrétienne en particulier, ce qui est tout à fait légitime, hein, moi je passe ma vie à faire ça, enfin je passe ma vie, pas toute ma vie, mais une partie, très important d'abord de l'insérer dans le cadre d'un enseignement qui dit qui est Dieu, qui est le... C'est le catéchisme de l'Église catholique aussi. Hein. La morale, c'est la troisième partie. Ça veut dire qu'avant, il y a eu toute la première partie qui dit qui est Dieu, c'est le credo. Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre, et en l'univers visible et invisible, etc. Deuxième partie, c'est les sacrements. Les sacrements, c'est quoi? Mais ce que fait Dieu pour nous aider, pour venir vers nous. Et seulement, troisième partie, la morale, ma réponse à ce que Dieu fait pour moi. Vous voyez? Ça, c'est très important. La morale est seconde. C'est une des choses les plus importantes que nous dit la Bible. Alors, point important là-dessus, hein, et c'est aussi important dans le contenu de la morale, la morale chrétienne, même si elle est basée sur la Bible, sur les paroles de Jésus, sur la tradition chrétienne, etc., quand je dis tradition chrétienne, c'est tout notre patrimoine chrétien, hein, de notre tradition religieuse, même si notre discours, le discours moral de l'Église est basé là-dessus, c'est pas pour ça qu'elle ne peut pas se tomber d'accord avec des gens qui ne sont pas catholiques, ou voire qui ne sont pas chrétiens, voire qui ne sont pas religieux. Notre fondateur, par exemple, avait, il fut un temps là, autant il était aumônier d'école, était amené voir un groupe de lycéens rencontrer un professeur qui s'appelait, si ma mémoire est bonne, le professeur Lucien Israël, qui avait écrit qui n'était pas chrétien, je crois, qui n'était même pas croyant, qui avait écrit un très beau livre sur le sens de la vie et notamment sur le respect de la vie à la fin de la vie, donc sur les problématiques d'euthanasie. Eh bien, c'est quelqu'un qui avait très bien perçu le caractère sacré de la vie alors qu'il n'était pas croyant. Vous voyez? Pas croyant, mais le caractère sacré de la vie, il est d'accord avec nous. C'est pas parce que c'est notre tradition chrétienne que ça ne peut pas entrer en dialogue avec des convictions de gens qui ne sont pas chrétiens du tout. Hein? On a tous une intelligence. Et dans le dialogue et l'échange, il y a des choses dont on peut convenir et sur lesquelles on peut tomber d'accord. Il ne faut pas craindre que notre message puisse rejoindre le cœur des gens. Alors, ça suppose des explications, ça suppose beaucoup de délicatesse aussi, beaucoup de pédagogie, mais il ne faut pas partir, oui, faut pas partir vaincu. Ça, c'était le premier point sur le contenu de la morale. Et puis, mon deuxième point. Et puis, quand j'aurai fait mon deuxième point, j'aurai fait pile trois quarts d'heure. Donc, je serai bien dans les temps. Dans la morale, il y a deux parties. Et on retrouve ça dans Gaudium et Spes, le document dont je vous ai parlé tout à l'heure, le document de Vatican II, qui est un petit peu le document phare sur la morale. Dans la morale, il y a deux parties. La première partie, elle traite des grandes notions fondamentales de la morale. Par exemple, c'est quoi la liberté? Est-ce que l'homme est libre? Ensuite, c'est quoi la liberté? Est-ce que c'est la possibilité de faire n'importe quoi? Ou est-ce que ça veut dire autre chose? Qu'est-ce que c'est qu'une action morale, par exemple? À partir de quand on peut dire qu'on pose une action morale? Est-ce qu'il y a un âge, par exemple? À partir du quand on peut poser des actions morales? Puis avant, on ne pose pas vraiment des actions morales, hein, on n'est pas encore suffisamment pour poser un vrai acte moral susceptible d'être qualifié en bon, en mauvais, etc. Donc ça, c'est les grandes questions fondamentales de la morale. Et puis après, vous avez des questions spécifiques. Par exemple, la bioéthique. C'est la partie de la morale qui traite des questions qui touchent à la vie humaine. Tout ce qui est le début de la vie humaine, hein, la procréation, tout ce qui est le respect de la vie à ses tout premiers moments, tout ce qui est le respect de la vie à tous ses tout derniers moments, tout ça, c'est ce qu'on appelle la bioéthique, etc. C'est les deux grandes parties de la morale, hein, morale fondamentale, dit-on souvent, et la morale spéciale de l'autre côté, la morale spéciale qui traite de problèmes spécifiques. Cette morale spéciale, elle aborde des points concrets. Je vais vous sortir les textes du Concile Vatican II. Et tout en gardant le micro collé à mon manteau, je vais réussir à ouvrir à la bonne page pour avoir la bonne des matières. Constitution pastorale sur l'Église dans le monde de ce temps, Gaudium et Spes. Première partie. L'Église est la vocation humaine. C'est là que le Concile parle de morale fondamentale. L'Église est la vocation humaine. Vous voyez, et la vocation humaine au bonheur qui est Dieu. Hein, c'est ça que ça veut dire. Deuxième partie, uniquement en deuxième partie, de quelques problèmes plus urgents. Et là, le Concile va nous donner des repères de morale dans les domaines que je vais vous indiquer. Je vous donne juste les têtes de chapitre, hein, mais ça vous donne une idée des problèmes auxquels va s'affronter le Concile. Premièrement, dignité du mariage et de la famille. Donc là, c'est toutes les questions qui touchent à la morale de la famille, à la morale du couple, à la morale de la sexualité. Deuxième chapitre, l'essor de la culture. Là, c'est les questions de morale qui touchent à la culture. Est-ce que c'est important de se cultiver? Est-ce que la culture, c'est important pour l'homme? Quelles sont les limites? Quelles sont les... Bon, etc. Troisièmement, la vie économico-sociale. Le problème de la vie économique. Qu'est-ce qui est moral en économie? Et qu'est-ce qui ne l'est pas? Chapitre 4, la vie de la communauté politique, donc la vie politique. Que dit la morale sur la vie politique? Et que ne dit-elle pas? Chapitre 5, la sauvegarde de la paix et la construction de la communauté des nations. Ça, c'est la question de la guerre, la morale de la guerre. Vous voyez, ce sont des problèmes précis, hein? La morale de notre patrimoine, la morale qui nous vient du Seigneur, elle est capable de s'exprimer sur des grands problèmes. L'Église et la vocation humaine. Et deuxième partie, elle est capable de projeter sa lumière sur des secteurs très brûlants de notre activité humaine dans le monde d'aujourd'hui. Hein? La famille, la culture, la vie économique et sociale, la vie politique et la question de la guerre. Et tous ces problèmes-là sont éclairés par notre morale chrétienne. Notre morale chrétienne, elle a des choses intelligentes à dire là-dessus. Je dis bien intelligente. Elle a une contribution intéressante à proposer au débat dans ce domaine-là. On pourrait dire que rien de ce qui est humain n'est étranger au Christ. Or là, nous avons des domaines de l'être humain qui sont fondamentaux. Enfin, la famille, c'est fondamental dans la vie humaine. Enfin, comment voulez-vous être heureux si vous n'avez pas de repères pour construire votre vie de famille, votre vie de couple et votre vie sexuelle ? Pas possible. La culture, un bon usage de la culture, comment voulez-vous être heureux si vous savez pas, vous n'avez pas des repères pour faire un bon usage de la culture ? La vie économique et sociale, comment voulez-vous être heureux si vous n'avez pas des repères clairs pour mener votre vie économique et sociale ? Vous voyez ? Tous ces domaines-là sont des domaines qui sont éclairés par la parole de l'Église. Alors je conclue hein, cette petite intervention. Je n'ai pas pu dire un mot en vous parlant de morale générale. Je n'ai pas dit un mot de la notion de bien, mais je vais quand même en dire un petit mot avant de conclure. J'espère, ou plutôt ce sera ma conclusion, je vais m'en sortir comme ça. J'espère qu'à travers ce que je vous ai dit, le mot « bien », parce que quand on parle morale, on se dit « qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais ?» Mais j'espère qu'avec ce que je vous ai dit, vous percevez un peu différemment le mot « bien ». Quand on parle de bien et de mal en morale, on peut avoir une compréhension du bien ou du mal comme « le bien, c'est ce qui est permis, c'est ce qu'on peut faire. Le mal, c'est ce qui est défendu. » Je suis pas. Ou le bien, c'est ce qu'on doit faire, éventuellement. Et le mal, c'est ce qui est défendu. Je dis pas que c'est pas vrai, hein. Je suis d'accord avec vous, hein. Le bien, c'est permis de le faire et c'est même plus recommandé. Et le mal, vaut mieux pas le faire. Hein, c'est même défendu. Bon, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire ça. Mais j'espère que vous percevez que, en fait, le bien, dans la perception de l'Église, dans l'enseignement du Christ, c'est bien plus que ça. Une action bonne moralement, c'est une action réussie. Une action bonne moralement, c'est une action pleine de vie, d'une authentique vie. Et on retombe sur les paroles du Christ dont nous sommes parlé. Bon maître, c'est pas pour rien hein, qu'il est appelé bon. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? Qu'est-ce que je dois faire ? Un agir qui soit un agir bon, voyez. Un agir qui soit un agir beau, on pourrait dire. Beau. Le bien tel que l'entend l'Église, le bien tel que l'entend la Bible, le bien tel que l'entend la foi chrétienne, c'est pas seulement ce qui est permis ou ce qui est obligatoire. C'est ce qui est beau. C'est ce qui nous fait du bien. En profondeur. En profondeur. C'est ce qui nous permet d'atteindre la plénitude de la vie. C'est pour ça que Jésus a répondu, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Un seul est bon. Dieu seul est bon. C'est lui la plénitude du bien. » Plénitude de la bonté, la plénitude de la vie. Et nous, dans notre cheminement moral, en progressant, parce que c'est progressif, hein, la morale, hein, je n'en ai pas dit beaucoup de mots, mais c'est progressif, et bien petit à petit, on se rapproche de cette plénitude de bonté, en ayant une vie de plus en plus pleine, de plus en plus dense, de plus en plus réussie. Bref, une vie de plus en plus morale. Merci de votre attention. Amen.
L'Église et la morale, vous venez de suivre une conférence de l'abbé Louis-Marie Rino, prêtre de la fraternité Saint-Thomas Becket, conférence enregistrée dans le cadre du Carême le 5 avril 2019 à Salis de Béarn lors d'une soirée proposée par la paroisse Saint-Théodore de l'Alliance Salis de Béarn.